www.libradio.org. La station debout.
En 2006, l'ancien président américain Jimmy Carter affirme qu'Israël est en état d'apartheid, je cite, d'apartheid, estimant que ce terme se justifie par, je cite de nouveau, les barrières grillagées, les détecteurs électriques et les blocs de béton installés par les autorités israéliennes le long de la frontière avec la Cisjordanie. Fin de citation. Le journaliste Joseph Lelyveld, ancien directeur exécutif du New York Times et ex-correspondant en Afrique du Sud, juge approprié cette analogie et considère que, proportionnellement, Israël s'est approprié autant de territoires que le régime d'Afrique du Sud. En outre, il note qu'existait en Afrique du Sud un système complexe de permissions destiné à réguler le déplacement des individus selon leur statut légal, système qu'il compare à celui d'Israël, pour classer et limiter les allées et venues des Palestiniens. Le correspondant à Jérusalem du journal britannique The Guardian, Chris McGreal, estime qu'il, et je cite, « qu'il existe peu d'endroits dans le monde où les gouvernements élaborent une série de lois conçues pour être utilisé par une partie de la population contre l'autre. L'Afrique du Sud de l'apartheid en fut un, Israël en est un autre. » Fin de citation. Bonjour Rania, je vais te laisser donc te présenter. Et le sujet dont on va parler, c'est effectivement ceci, l'apartheid, la notion d'apartheid, le plus précisément le régime d'apartheid. On sait que la sémantique est extrêmement importante en la matière. Tu vas nous expliquer tout ça, mais peut-être pourrais-tu commencer par te présenter. Qui es-tu? Quelle est ta fonction? Et au sein de quelle ONG, que tu vas nous prononcer toi, mieux que moi, bien entendu, est-ce que tu travailles?
Absolument. Merci beaucoup déjà et bonjour à tout le monde. Moi, c'est Rania Muharib. Je suis juriste de l'ONG palestinienne qui s'appelle Al-Haq. Al-Haq, ça veut dire le droit en arabe. Donc, c'est une ONG palestinienne de droits de l'homme qui est basée en Cisjordanie, à Ramallah. Mais en fait, on a des collègues qui travaillent partout en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem, pour documenter les violations des droits de l'homme. Et ils prennent des témoignages des victimes des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme. Et nous cherchons, à travers notre travail à l'ONG, de mettre fin à cette situation de violation des droits de l'homme.
Tu es ici à Genève, non pas pour observer et profiter, enfin j'espère quand même que tu pourras profiter un petit peu de la ville, mais tu es là pour une raison très précise, c'est parce qu'à l'ONU va se dérouler dès la semaine prochaine un séminaire.
Exactement, donc en fait cette semaine, entre le 2 et le 5 décembre 2019, on a les séances aux Nations Unies du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Et ce comité doit revoir la politique et les pratiques d'Israël en tant qu'État membre de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale. Donc c'est cette semaine que cette revue d'Israël va se dérouler aux Nations Unies. Et d'ailleurs, c'est la première revue d'Israël depuis 2012. Et comme vous l'avez déjà indiqué, il y a eu des développements récents et la reconnaissance qui continue de ce régime de l'apartheid dont on parle. Et donc on parle d'une reconnaissance par plusieurs personnes et organes des Nations Unies depuis 2012 qui disent qu'Israël a établi un régime d'apartheid. En particulier, on a par exemple un rapport très important qui est de l'ONU, de la Commission de l'Asie de l'Ouest en 2017, qui est paru des Nations Unies. Ce rapport parle d'un régime d'apartheid qu'Israël a mis en place contre le peuple palestinien. Et dans ce rapport, ils expliquent en fait que c'est la fragmentation comme... Voilà, la division du territoire palestinien, les violations du droit à la liberté de circulation, etc., y compris la fragmentation du peuple palestinien et la division du peuple palestinien qui sert comme outil principal de cet apartheid dont on parle. Et donc, c'est cette politique qu'Israël a mise en place que l'ONU, dans ce rapport, a considéré constituer un régime d'apartheid et de discrimination raciale contre les Palestiniens.
Mmh. Revenons un petit peu en arrière et parlons un petit peu de cette notion, avant que l'on aille vraiment au point, au focus vraiment et à l'actualité de ce séminaire, sur la notion d'apartheid. Selon toi, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, ça devient peut-être un mot galvaudé dans l'esprit de certains, peut-être pourrait-on préciser qu'est-ce que ça signifie, parce que c'était une politique tout à fait officielle et publique, hein, l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, voudrais-tu nous préciser ces notions?
Absolument. Donc, quand on parle de l'apartheid en droit international, ce sont bien les pratiques qu'on voyait en Afrique du Sud, mais non seulement en Afrique du Sud. Donc, l'idée est que cette définition de l'apartheid en droit international comprend tous les régimes institutionnalisés où il y a une politique systématique de domination et d'oppression d'un peuple ou d'un groupe racial par un autre groupe ou d'autres groupes. C'est-à-dire que, alors bien que ce concept de l'apartheid, il émerge de l'Afrique du Sud et du contexte de l'Afrique du Sud, c'est bien un crime qui est aujourd'hui reconnu en droit international et qui peut se dérouler n'importe où dans le monde, tant qu'on a, d'une part, ce régime institutionnalisé, une oppression systématique, une domination systématique sur un peuple, et que cela se fasse dans le cadre d'un régime institutionnalisé qui a pour but de se maintenir de cette manière.
L'exemple d'Israël, alors, très concrètement, eh bien, comment est-ce que, selon toi, selon vous, pratique-t-il ce régime d'apartheid? Parce que, et là, je te laisserai également préciser pourquoi est-ce qu'on parle de régime d'apartheid. Là, on parle effectivement de quelque chose de systémique, hein, d'un système qui est mis en place.
Absolument. Et donc, je tiens à préciser aussi que nous avons publié un rapport qu'on a envoyé aux Nations Unies, à ce comité pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est un rapport que nous avons écrit avec des organisations partenaires palestiniennes, régionales et internationales. Donc, on est 8 organisations à avoir publié ce rapport et on l'a envoyé à ce comité des Nations Unies. Et on détaille dans ce rapport comment est-ce qu'Israël a mis en place ce système d'apartheid et comment est-ce que ce système se maintient. Pour résumer plus ou moins notre argument que nous avons bien sûr présenté cette semaine à l'ONU, ce que nous disons, c'est que d'une part, on a des lois, des politiques et des pratiques institutionnalisées en Israël qui ont pour but principal la domination sur le peuple palestinien. Je donne des exemples. Les lois israéliennes qui ont été mises en place depuis la création de l'État, c'est-à-dire depuis 1948, on a une série de lois israéliennes qui donnent un statut particulier aux Juifs, qu'ils soient israéliens de citoyenneté ou non, alors que les Palestiniens n'ont pas accès aux mêmes droits dans la loi israélienne. Donc, on a en 1950 une loi adoptée par le Parlement israélien qui est la loi du retour. Cette loi du retour dit que toute personne de foi juive, n'importe où dans le monde, peut venir dans le pays et s'installer dans le pays. Et de la même manière, on a une loi de 1952 sur la citoyenneté qui dit encore que toute personne qui, selon la loi du retour, peut revenir dans le pays ou venir dans le pays, peut aussi avoir la citoyenneté israélienne. Alors que les Palestiniens, en 1948, plus ou moins 3/4 du peuple palestinien, plus que 750 000 Palestiniens ont été déplacés après la guerre que nous appelons la Nakba, c'est la catastrophe en arabe. Ils ont été déplacés de leur village, de Palestine mandataire, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu le droit de revenir dans ces villages. On parle aussi d'une grande partie du peuple palestinien qui est resté à l'intérieur du pays en 1948. Plus ou moins 1/4 des Palestiniens qui sont restés étaient déplacés à l'intérieur du pays. Et eux aussi n'ont jamais eu le droit de revenir dans leur village. Certains aujourd'hui habitent à 2-3 kilomètres de ces villages et ne peuvent toujours pas y retourner. C'est le système institutionnalisé dont on parle, que d'une part, n'importe qui dans le monde de foi juive pouvait venir et prendre, s'installer et prendre la citoyenneté, alors que les Palestiniens, jusqu'à aujourd'hui, 71 ans plus tard, n'ont pas ce droit de revenir. D'autre part, on a eu d'autres lois, comme la loi sur la propriété des absents. Cette loi de 1950 disait que non seulement les Palestiniens ne pouvaient pas revenir, mais aussi que l'État pouvait confisquer de manière systématique leur propriété. C'est-à-dire que même s'ils revenaient, leur propriété avait déjà été confisquée par l'État. Et donc, c'était un processus non seulement de déplacement, mais aussi de dépossession des Palestiniens à travers cette politique israélienne. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle d'un État d'apartheid? Pour nous, on soutient l'argument qui a été fait par le rapport de 2017 de l'ESCOA, la Commission de l'Asie de l'Ouest aux Nations Unies, qui dit c'est la fragmentation systématique du peuple palestinien ou stratégique, comme le disait le rapport, qui est la manière principale dont Israël impose ce régime d'apartheid. Et donc, l'argument est très clair. Depuis 1967, on a le peuple palestinien divisé de manière systématique en 4 catégories différentes. La première catégorie, c'est les Palestiniens qui ont la citoyenneté de l'État d'Israël. C'est comme on disait, les Palestiniens qui sont restés dans l'État après la guerre, alors même qu'une grande partie d'entre eux étaient déplacés à l'intérieur du pays et ne pouvaient pas retourner. Ces Palestiniens aujourd'hui portent la citoyenneté de l'État, mais n'ont pas le même statut juridique dans l'État que les Israéliens juifs. Parce qu'en fait, il y a une distinction majeure entre la question de la citoyenneté et la nationalité en Israël. Je peux en parler tout à l'heure. La deuxième catégorie de Palestiniens, ce sont les Palestiniens de Jérusalem. À Jérusalem, Israël a imposé un statut précaire de résidence permanente. Résidence soi-disant permanente, alors que cette résidence, elle peut en fait être révoquée par les autorités israéliennes. Et depuis 1967, on a au moins 14 500 Palestiniens de Jérusalem-Est qui ont vu leur résidence révoquée, c'est-à-dire leur droit de rester et de résider à Jérusalem révoqué, par les autorités israéliennes. Pour différentes raisons, y compris surtout cette politique du centre de vie, c'est-à-dire que les autorités israéliennes peuvent considérer que si un Palestinien n'a pas son centre de vie à Jérusalem, il peut être déplacé avec sa famille de la ville, alors que c'est la ville où il est né et où il habite. La troisième catégorie de Palestiniens dont on parle, ce sont les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces Palestiniens, contrairement aux Palestiniens à Jérusalem, Jérusalem est un territoire qui a été annexé par Israël, c'est-à-dire que les lois israéliennes civiles sont appliquées directement aux Palestiniens là-bas. En Cisjordanie et à Gaza, au contraire, on a les lois militaires israéliennes qui s'appliquent aux Palestiniens, y compris les Palestiniens qui sont dans les camps de réfugiés palestiniens dans ces territoires. Et finalement, la quatrième catégorie dont on parle de Palestiniens, ce sont les Palestiniens qui sont réfugiés en dehors du pays. On parle de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et on parle aussi de Palestiniens qui sont en exil, c'est-à-dire qui sont ailleurs, qui n'ont pas le statut de réfugiés. On parle de 13 millions de Palestiniens dans le monde aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on parle des Palestiniens qui sont en dehors, quand on parle de la politique israélienne, c'est parce qu'en fait, c'est la politique israélienne qui les empêche de revenir en Palestine, ou même de mettre pied en Palestine, de venir visiter la Palestine et ne peuvent pas le faire. Et c'est cette politique systématique dont on parle, de dire que ces Palestiniens, dans chaque catégorie où on les a divisés de manière systématique, de manière géographique, mais aussi politiquement et juridiquement, chacun avec un statut différent imposé par les Israéliens, c'est ça la politique de l'apartheid, parce qu'en fait, en divisant le peuple palestinien, c'est ainsi qu'Israël peut imposer cette domination et cette oppression raciale, qui d'ailleurs est déjà ancrée dans ses lois fondamentales.
On pourrait étendre cela au statut de la bande de Gaza, qui est sous blocus depuis plus de 10 ans. Et quand on parle d'un blocus, il s'agit d'un blocus territorial, aérien et nautique, et naval également, ce qui fait que, eh bien, évidemment, le peu de ressources qui sont présentes sur place, eh bien, sont inexploitables du fait de ce blocus.
Absolument. Donc, Gaza, comme vous venez de le dire, est un territoire qui est sous blocus israélien depuis 2007. Depuis 12 ans, on parle d'un blocus imposé sur les Palestiniens de Gaza, 2 millions de Palestiniens, y compris 1,4 million de réfugiés palestiniens. Et c'est ce contexte, depuis 2012, on a des rapports qui sont sortis des Nations Unies. Ces rapports disent que Gaza, en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, sera un territoire inhabitable à cause de cette politique du blocus. Pour nous, les Palestiniens, que ce soit la société civile ou voilà les Palestiniens qui habitent à Gaza, notre position elle est très claire. Depuis des années, bien des années, Gaza est déjà inhabitable. Un territoire où les Palestiniens n'ont pas d'avenir, les importations et les exportations sont interdites, le mouvement des Palestiniens est interdit, y compris, et on le détaille aussi dans notre rapport, la question de la santé, c'est-à-dire que les Palestiniens qui ont besoin de soins médicaux ne peuvent pas avoir accès à ces soins à Gaza parce que les hôpitaux ne peuvent pas maintenir leur opération sans les médicaments, l'infrastructure nécessaire, on a un problème d'électricité, et sans les équipements médicaux qu'Israël interdit aux Palestiniens à Gaza. Donc quand il n'y a pas de soins à Gaza, la seule option c'est de se soigner ailleurs. Et Israël aussi interdit aux Palestiniens de sortir de la bande de Gaza ou d'avoir un permis de sortir pour pouvoir avoir ce traitement médical ou autre, pour d'autres raisons aussi, que ce soit des étudiants, des professeurs qui veulent aller à l'université et qui ont des programmes d'échange. On a un système de permis qui est vraiment systématique, imposé aux Palestiniens à Gaza. Et dans ce contexte qui est vraiment, c'est un contexte inhumain, et illégal d'ailleurs, parce que ce blocus israélien, c'est une punition collective qui, en droit humanitaire, est interdit. Et d'ailleurs, la communauté internationale reconnaît depuis 12 ans que ce blocus est illégal, alors que ce blocus se maintient et aucune mesure n'est prise pour mettre fin à cette situation. Et je tiens aussi à préciser, quand on parle de Gaza aujourd'hui, la marche ou les marches du retour à Gaza. Depuis le 30 mars l'année dernière, c'est ce que les Palestiniens appellent la journée de la terre, le 30 mars, une journée où les Palestiniens revendiquent leur droit à la terre et au retour. Donc depuis le 30 mars l'année dernière, les Palestiniens à Gaza, dans ce contexte complètement inhumain, ils manifestent depuis plus que 82 semaines, chaque vendredi, à Gaza, pour deux choses, deux demandes principales, mais qui sont légitimes et aussi très simples. La première, c'est revendication, c'est la levée de ce blocus que la communauté internationale reconnaît déjà comme illégal. Et la deuxième revendication essentielle, c'est le droit du retour et les droits inaliénables qui soient respectés du peuple palestinien. Quand on parle de 70 ou 75% de la population à Gaza qui sont réfugiés depuis des générations et qui n'ont pas ce droit de retourner dans leur terre, ce sont là les revendications principales à Gaza et elles sont légitimes en droit international. Mais en revanche, et c'est là qu'on parle de ce système d'apartheid qui non seulement impose cette discrimination raciale, mais aussi empêche les Palestiniens, ou sert à empêcher aux Palestiniens de vraiment changer ce régime ou de revendiquer leurs droits. Donc, depuis le 30 mars l'année dernière, et de manière systématique, l'armée israélienne, l'armée d'occupation israélienne, a tiré de manière systématique sur les civils palestiniens pendant ces manifestations pacifiques. Et donc, depuis le 30 mars l'année dernière, on a eu plus que 214 Palestiniens tués pendant ces manifestations par l'armée israélienne, alors qu'ils n'étaient pas armés et qu'il n'y avait pas de raison pour utiliser cette force excessive et surtout les balles réelles. On a aussi plus que 30 000 blessés pendant ces manifestations, y compris des enfants, personnes handicapées, journalistes, ambulanciers. Parmi les personnes tuées, on a 46 enfants. Donc ce sont des chiffres inimaginables et on parle d'au moins 8000 personnes qui depuis l'année dernière ont été tirées par balles réelles, blessées par balles réelles pendant ces manifestations pacifiques. Et vous pouvez imaginer dans ce contexte, on a eu la création ici à Genève d'une commission d'enquête des Nations Unies pour enquêter ces violations graves du droit international dans Gaza dans ces marches du retour. Et cette commission, elle a été créée l'année dernière, en mai 2018. Al-Haq, comme d'autres ONG palestiniennes, étaient présents pendant cette réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et c'est là que cette commission d'enquête a été créée. Pendant 6 mois, ou encore plus, cette commission a mené cette enquête pour voir quelles sont les violations du droit international qui ont eu lieu pendant les marches du retour à Gaza. Et ils ont trouvé des bases crédibles pour croire qu'il y a eu des violations graves du droit international. Ces violations peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et doivent être enquêtées pour mettre fin à cette situation d'impunité. Et donc, cette commission d'enquête qui a présenté son rapport à Genève en mars 2019, cette année, a aussi préparé un dossier pour la Cour pénale internationale pour que la Cour pénale, y compris d'autres tribunaux internationaux ou nationaux, puissent enquêter et juger les crimes potentiels dont on parle ici à Gaza. Et je tiens aussi là à préciser que c'est vraiment cette situation d'impunité qui contribue à ces violations des droits de l'homme et qui aussi fait partie intégrale de ce régime d'apartheid dont on parle et du maintien de ce régime.
On va prendre comme exemple également ce qui s'est passé avec les différentes flottilles qui chaque année tentent de briser le blocus, flottilles d'internationalistes pacifistes hein, qui en bateau tentent de parvenir jusqu'à Gaza pour y amener des médicaments et qui à chaque fois sont arraisonnées militairement par Tsahal qui envoie, et il y a eu d'ailleurs par ailleurs il y a quelques années des morts hein, sur ces bateaux, sur cette flottille pacifiste on le rappelle, et bien entendu désarmée, complètement désarmée. Et voilà, ça c'est un exemple également de la brutalité avec laquelle ces personnes sont éconduites. Comment est-ce que tu expliques une forme de silence et de complicité assourdissante, j'ai envie de dire, de la communauté internationale vis-à-vis justement de ces actes-là, de ces tentatives de sortir de l'impasse, réprimées dans le sang, réprimées dans une répression féroce?
Donc oui, il faut vraiment parler de cette complicité internationale parce qu'en fait, dans ce contexte d'impunité totale d'Israël, il y a une obligation à tous les États, vraiment, de la communauté internationale pour intervenir. D'une part, il y a trois obligations majeures des États en droit international. La première, c'est de ne pas reconnaître une situation qui est illégale. Et cette obligation, elle a plus ou moins été respectée par les États, parce qu'ils disent très bien que le blocus de Gaza est illégal, le mur d'annexion qui entoure la Cisjordanie et Jérusalem est aussi illégal. Ils disent aussi très bien que les colonies israéliennes sont illégales en territoire occupé. Donc ça, c'est pour la plupart des pays, je dis, parce qu'en fait, il y a 10 jours, plus ou moins, on a eu une déclaration des États-Unis qui disait que les colonies israéliennes, c'est-à-dire le transfert de civils israéliens en territoire occupé, n'étaient plus considérées de fait comme une chose illégale en droit international. Bien sûr que ce n'est pas le cas. Cette déclaration, elle est nulle, elle est non avenue. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de complicité, ce genre de déclaration contribue aux violations qui se déroulent en Palestine. Et ce sont ces déclarations qui contribuent à la situation d'impunité. Donc le lendemain de cette déclaration des États-Unis, on a déjà eu le premier ministre israélien qui disait qu'il allait prendre cette occasion pour annexer la vallée du Jourdain, annexion qui, en droit international, est illégal. Donc ça, c'est, on a parlé de cette obligation de ne pas reconnaître une situation qui est illégale. Mais ça ne suffit pas. Et je tiens ici à parler de la position, par exemple, de l'Union européenne. L'Union européenne a déclaré, après cette déclaration des États-Unis, que leur position par rapport aux colonies illégales n'avait pas changé. Et qu'en fait, la position de l'Union européenne était toujours que ces colonies sont illégales. Mais cela ne suffit pas. Et depuis 52 ans, on parle d'une situation d'occupation militaire où les colonies et la colonisation est illégale. Mais sans mettre fin à cette situation, on ne peut pas continuer à parler de légalité ou d'illégalité. Et c'est pour ça que je parle de la deuxième obligation. La deuxième, c'est de ne pas assister au maintien d'une situation qui est illégale, c'est-à-dire de ne pas donner de l'aide ou de l'assistance. Cela comprend la complicité économique, c'est-à-dire les entreprises qui sont impliquées dans cette colonisation israélienne ou d'autres violations des droits de l'homme et qui sont installées dans les pays européens ou ailleurs. Et finalement, il y a une troisième obligation. La troisième, c'est coopérer entre les États pour mettre fin à une situation d'illégalité. Et là, je précise aussi que pour nous, notre vision en tant qu'ONG des droits de l'homme, c'est que sans justice internationale, on n'aura pas de fin à ces violations des droits de l'homme. Et c'est pour ça que pour nous, la Cour pénale internationale est une plateforme essentielle pour mener cette justice internationale. Je dis une et pas la seule, parce qu'en fait, il y a d'autres moyens. Et les autres moyens, c'est la compétence universelle. Les États membres de la communauté internationale peuvent, dans leurs propres tribunaux, selon les conventions de Genève, juger les crimes potentiel en Palestine, quelle que soit la nationalité de la personne qui aurait commis ou ordonné d'être commettre ces crimes potentiels. Donc ça, c'est une obligation que beaucoup d'États dans la communauté internationale ont, la compétence universelle. Mais dans le cas de la Palestine, elle n'a jamais été utilisée de manière à ce que la personne qui aurait commis ces crimes potentiels soit rendue responsable.
Très bien, très bien. Ces instances internationales dont tu parles, eh bien, on a parlé de l'Europe. Quelles sont-elles? Y en a-t-il d'autres vers lesquelles vous vous tendez à trouver des alliés? Ça, c'est le premier volet de la question. Et puis, j'aurais voulu, avant que l'on ne parle effectivement de cette semaine de séminaire plus précisément, encore te questionner sur donc la partie des alliés. Y a-t-il des alliés également à l'intérieur d'Israël avec lesquels vous pouvez travailler? Je pense à ça également pour illustrer d'une certaine manière encore ce régime d'apartheid. En disant cette sous-représentation incroyable à la Knesset de députés arabes israéliens qui comptent, qui sont 20% de la population au moins et qui ne sont quasiment pas représentés à la Knesset, donc au Parlement européen. Alors que nous avons des élections là à venir et ces élections-là, eh bien, penses-tu qu'il y a là quelque chose qui pourrait se jouer, quelque chose, les lignes pourraient-elles bouger, ou à l'inverse, c'est là un danger parce qu'on voit bien Netanyahou, le jeu de Netanyahou, et effectivement les appels du pied qu'il fait, et notamment à Trump aux États-Unis.
D'accord. Alors, en fait, quand il s'agit d'alliés internationaux, je tiens ici à parler du rôle essentiel de la société civile, que ce soit en Palestine ou au niveau régional ou bien international, parce que c'est la société civile qui a joué ce rôle essentiel en Afrique du Sud, par exemple, pour mettre fin à la situation d'apartheid. Et de la même manière, c'est la société civile qui est impliquée au niveau international en Palestine pour dénoncer ce régime d'apartheid israélien. Et je parle aussi des Nations Unies. Les Nations Unies ont un rôle à jouer. C'est pour ça que nous sommes ici cette semaine, pour parler du rôle des Nations Unies, la reconnaissance par les Nations Unies de ce régime d'apartheid. Ça, c'est au niveau international. Mais quand on parle du contexte local, vous avez parlé de la Knesset et de la sous-représentation des Palestiniens arabes dans la Knesset, le Parlement israélien. Et du fait que on a des élections israéliennes qui vont venir et pendant ces élections, on verra les partis qui vont former une coalition dans le gouvernement israélien. Pour parler ou pour mettre en contexte la question des Palestiniens à la Knesset, je précise une chose, c'est que nous, on a parlé d'un régime d'apartheid qui empêche les Palestiniens de mettre fin ou de changer ce régime, ou même, voilà, de critiquer ce régime. Donc, je donne un exemple. L'année dernière, en 2018, le Parlement israélien a adopté une loi fondamentale. C'est une loi qui a un statut de constitution en Israël. Cette loi s'appelle la loi de l'État-nation du peuple juif. Israël comme État-nation du peuple juif, c'est ce que la loi dit. Et la loi, d'ailleurs, elle dit que le droit à l'autodétermination est exclusive au peuple juif. Je dis bien peuple juif et non peuple israélien dans le pays. D'autre part, la langue arabe n'a plus le statut officiel dans le pays selon cette loi. Et finalement, bien sûr, les Palestiniens ne sont même pas mentionnés dans la loi, et c'est ce qu'on voit dans d'autres lois qu'on a mentionnées déjà. Finalement, la loi dit aussi que la colonisation est une valeur fondamentale de l'État. Et ça, je tiens à préciser, parce qu'en fait, quel que soit le gouvernement qui va être élu en Israël, cette loi va dicter la politique de ce gouvernement qui va dire et qui va continuer cette politique continue de la colonisation de la Palestine. Et d'autre part, pour parler un peu du rôle des Palestiniens arabes, les partis palestiniens arabes dans la Knesset. À l'époque, quand ce projet de loi a été proposé sur l'État-nation du peuple juif, les partis palestiniens avaient proposé un contre-projet de loi. Ce projet de loi s'appelait Israël comme État de tous ses citoyens. Et il faut vraiment préciser ici que le Parlement israélien n'a même pas discuté de ce projet de loi. Au contraire, ce que la Knesset avait dit à l'époque, c'est que ce projet de loi n'était pas constitutionnel. Il fallait même pas en parler au niveau du contenu parce que on pouvait pas en parler. Et ça, c'est très important à savoir parce que ça veut dire que, alors même qu'il y a une représentation palestinienne dans le Knesset, ça ne veut pas dire que les Palestiniens peuvent changer le caractère racial de ce régime dont on parle et qu'on appelle un régime d'apartheid. Finalement, est-ce qu'il y a des partenaires ou des organisations israéliennes ou autres qui, ou juives par exemple dans le monde, qui soutiennent la cause palestinienne et qui cherchent à mettre fin à ce régime d'apartheid? Oui, bien sûr. Et c'est là qu'il faut faire cette distinction importante entre la politique sioniste de l'État d'Israël qui se dit de parler au nom du peuple juif, alors qu'il y a des juifs partout dans le monde, des personnes de foi juive qui ne soutiennent pas, d'une part, la politique israélienne et d'autre part se disent anti-sionistes. Ils disent qu'ils ne soutiennent pas cette politique. Donc ça, c'est très important à savoir. Et donc pour nous, les Palestiniens, nos partenaires, ce sont ceux qui demandent la même chose que nous, la fin de ce régime d'apartheid, le respect des droits inaliénables au peuple palestinien. Et je précise ici surtout le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens, parce que c'est en respectant ce droit du retour des Palestiniens qui sont en exil ou réfugiés qu'on peut mettre fin à la fragmentation du peuple palestinien et au régime d'apartheid qui est soutenu par cette fragmentation.
Absolument. Merci beaucoup d'avoir tracé tous ces jalons concernant la situation depuis sur place, puisque toi-même tu es beaucoup là-bas finalement, la plupart du temps même là-bas. Venons-en à cette semaine à l'ONU, qu'est-ce qui va se passer concrètement et qu'est-ce que tu en attends de cette semaine ?
Absolument. Donc, en fait, demain, on a une séance informelle avec le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est une séance informelle pour les ONG et les organisations de la société civile pour présenter ces rapports qu'on a déjà envoyés, qui d'ailleurs sont sur le site des Nations Unies. Donc, nous, demain, on va présenter ce rapport, on va présenter notre argument sur la création d'un état d'apartheid, d'un régime d'apartheid israélien. Et ce qu'on attend, c'est la chose suivante. En 2012, le comité avait déjà reconnu qu'Israël était en violation de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale et surtout de l'article 3 de la Convention. L'article 3 parle de politique et de pratiques de ségrégation raciale et d'apartheid. Et déjà en 2012, le comité avait dit qu'Israël est en violation de l'article 3, disant que Israël avait mis en place une politique et des pratiques de discrimination raciale qui peuvent constituer de l'apartheid. Mais on n'a pas eu cette reconnaissance d'un régime d'apartheid ou d'un régime institutionnalisé. C'est ça ce qu'on attend aujourd'hui des Nations Unies. Et surtout, voilà, on a eu le rapport en 2017 des Nations Unies qui parlait d'un régime d'apartheid. Et c'est pour ça qu'on s'attend aujourd'hui à ce que les conclusions et les recommandations finales du comité reflètent ces développements en droit international et aussi comme reconnu par l'ONU et d'autres organes internationaux.
Et alors, une fois que ceci sera acquis, on peut l'espérer au bout de cette semaine, eh bien, et ensuite, selon toi, qu'est-ce que cela pourrait-il infléchir par la suite ?
Donc je vais dire, et ensuite, la lutte continue, comme toujours. Pour nous, en tant qu'ONG des droits de l'homme, il faut qu'on se base sur ces outils juridiques, c'est-à-dire les conclusions des comités des Nations Unies. C'est une conclusion qui va servir à notre travail, que ce soit en Palestine ou au niveau international. Un travail qu'on va mener avec les États membres des Nations Unies pour dire que non seulement on a voilà cette reconnaissance par les Nations Unies, mais il faut maintenant que les États agissent et prennent l'action et c'est aussi une recommandation qu'il faut donner à la société civile, parce que dans le cas de l'Afrique du Sud, ils avaient un rôle essentiel pour mettre fin à ce régime d'apartheid. Et c'est la même chose en Palestine. Et donc, on s'attend à ce que ces recommandations soient appliquées par les acteurs qui peuvent le faire. Et je précise aussi que le rapport de l'ESQUA de 2017 de la Commission de l'Asie de l'Ouest de l'ONU avait déjà une liste très détaillée de recommandations pour la société civile, pour les Nations Unies et pour les États de la communauté internationale. Ce sont ces recommandations que nous cherchons à appliquer aujourd'hui parce que nous considérons que Israël a mis en place un système et un régime d'apartheid et donc il faut mettre fin à ce régime pour respecter le droit international et les obligations des États en droit international.
Rania, je te remercie beaucoup de nous avoir éclairé de ce point de vue-là et de nous avoir apporté toutes ces informations-ci. On arrive doucement au terme de cet entretien. Donc, si des personnes parmi nous souhaitent, te poser une question, un micro est à disposition. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher et à saisir le micro pour questionner Rania. Sinon, on va rappeler qu'effectivement, toi-même, tu es juriste au sein de l'association Al-Haq. Peut-être voudrais-tu nous dire le site internet, l'adresse du site internet de l'association, de l'ONG?
Oui, absolument. Donc, on a un site en anglais et en arabe. C'est www.alhaq.org.
Très bien. Et puis alors, d'ici là, nous te souhaitons beaucoup de courage pour tout ceci. Nous pourrions terminer par peut-être un ou plusieurs appels, je ne sais pas. Aurais-tu envie de lancer quelque chose depuis ici, la radio, et également de nous dire comment est-ce que les personnes qui sont ici présentes, par exemple, et celles qui vont écouter ce que tes propos, pourraient-elles se solidariser du point de vue individuel, tout simplement?
Absolument. Donc, je crois que chacun d'entre nous a une responsabilité morale envers la cause palestinienne, mais aussi toutes les autres luttes pour l'autodétermination des peuples autour du monde qui luttent contre la colonisation. Donc, pour moi, mon appel, c'est il faut se sensibiliser, il faut comprendre beaucoup mieux le contexte. Et j'espère qu'on a pu faire ceci avec cette interview. Et aussi de dire que il faut commencer à regarder la question palestinienne cet angle-là. Et de dire que c'est vraiment cette fragmentation du peuple palestinien qui contribue aux violations des droits de l'homme que nous voyons aujourd'hui. Et donc d'essayer, tant qu'on peut, de parler du peuple palestinien et d'essayer de mettre fin à cette politique de fragmentation et de parler d'un peuple palestinien uni qui subit la même politique de colonisation et d'apartheid israélien.
Et pour les personnes qui sont parmi nous, eh bien, on peut rappeler que d'autres entités existent, telles que BDS, par ailleurs, le CUP à Genève, le collectif Urgence Palestine également, et qu'elles sont évidemment accostables et approchables en tout temps. Je crois qu'on en arrive au terme de cet entretien, à moins que tu veuilles encore rajouter quelque chose.
Merci beaucoup. Juste, je vous remercie vraiment pour cette occasion et de vraiment parler de ce sujet, de sensibiliser les gens autour de l'apartheid. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi d'être venu par nous. Vive la solidarité internationaliste et nous nous retrouvons bien entendu un petit peu plus loin pour continuer la lutte.
Absolument. Merci beaucoup.